Dans cette série de podcasts inédits et tirés de la première biographie du maestro, intitulée Ennio Morricone ou Le poison d'une œuvre, parue aux éditions Marie-Bé et signée Philippe Grégoire, nous proposons une suite de focus par périodes successives sur la vie et l'œuvre d'Ennio Morricone. Ce dernier podcast, intitulé La marque de fabrique Ennio Morricone, se propose d'approcher ce qui constitue la singularité de l'œuvre morriconienne. Il semble très difficile d'évaluer la période exacte où le style morriconien s'est établi, stabilisé, installé, au point d'en devenir une marque de fabrique, c'est-à-dire un ensemble de procédés caractéristiques permettant d'isoler et de distinguer sa manière de composer. Difficile car l'un des traits qui singularise le mieux Morricone consiste précisément dans la volonté farouche de ne jamais se reposer sur ses acquis. Le maestro se remettait en cause en permanence, cherchait des façons nouvelles, expérimentait des solutions acceptables pour son commanditaire. C'est-à-dire si le son fabriqué par Morricone ne repose pas sur une méthodologie statique et gravée dans le cas rare, sur un copier-coller appliqué aux nouveaux morceaux à formaliser, voire une simple routine un peu ronronnante à dupliquer. Au-delà de ces évolutions quasi systématiques voulues par le compositeur, il convient néanmoins d'appréhender, de saisir et de cerner ce qui fait et explique la singularité du style morriconien, la marque de fabrique d'un virtuose hors pair du son. Les premières réponses sont à chercher du côté de son histoire personnelle. Né romain avec un père musicien, il a baigné dès son enfance dans l'univers de la musique. Mario lui a enseigné la partition et le maniement de son premier instrument, la trompette, à peu près dans le même laps de temps où il devait apprendre à lire, écrire et compter. Nous l'avons vu, le jeune Ennio faisait preuve d'une vraie agilité intellectuelle. Il jouait aux échecs très vite avec ses amis, voie dans laquelle il souhaitait persévérer au point de se mesurer bien plus tard à des pointures internationales. Puis, cet esprit brillant est entré au Conservatoire Sainte-Cécile et très vite, il a fait montre d'une habileté incontestable dans l'acquisition des connaissances. Il a aidé ses camarades à progresser, il effectuait en 2 ans la classe d'harmonie principale au lieu des 4 prévus. Il s'orientait vers la composition alors que cette décision ne correspondait pas aux standards admis dans ce milieu. Qu'en avait-il à faire des conventions, lui qui jouait dans les nightclubs la nuit? Dormait peu, étudiait le jour, le ventre creux durant les années de guerre. Il faut une force de caractère phénoménale pour s'épanouir dans un tel contexte entre 10 et 15 ans. Il s'oriente alors vers la composition en choisissant son professeur. Il savait pertinemment au fond de lui-même que la création de partitions originales serait sa voie. Cette force de caractère, alliée à son intelligence vive, explique en grande partie sa volonté de faire, de persévérer et réussir dans la voie que son père avait tracée et qu'au fil du temps il avait fait sienne. La marque de fabrique morriconienne disposait dès le sortir de la guerre d'une base très solide sur laquelle prospérer, tout en conservant en mémoire l'injonction paternelle de gagner sa vie avec la musique qu'il ne perdra jamais de vue. Et elle trouve dans les arrangements une opportunité sans pareille de s'exercer, deux aspects fondamentaux émergent alors de cette période charnière. L'un réside dans l'originalité de son travail. Au fur et à mesure de ses travaux pour les divers orchestres, il en arrive à mettre au point un système qui attribue à la mélodie, la donnée, une place centrale et à l'arrangement, son apport, une position périphérique, de sorte à lui conserver son indépendance. Même si la partition ne brille pas par son originalité, il arrive à en faire ce qu'il veut. Ainsi, il intègre très vite et à la fois le tenant, la mélodie initiale et l'aboutissant, le son tel que rendu par ses arrangements. Et fort de cette méthode, Morricone va multiplier les expérimentations, y compris les plus audacieuses, parfois au prix d'une incompréhension de la part des musiciens les plus aguerris en charge de jouer ces partitions arrangées, tellement ils méconnaissaient ce type d'approche. L'activité de Morricone dans les arrangements se décline avec un coefficient multiplicateur impressionnant, à tel point que l'inventaire exhaustif de ses travaux semble relever aujourd'hui de l'impossible. En tout état de cause, quand il aborde la composition pour le cinéma, c'est sur cette double base, une formation d'excellence alliée à une expérience sans équivalent dans la formalisation de multiples morceaux très variés. Ainsi, quand Morricone se met à l'écriture de partitions pour le cinéma, toujours à la main, il ne perd jamais de vue la couche additionnelle de l'arrangement qui va le rendre audible au grand public via la phase d'enregistrement en convoquant les instruments adéquats. Composition et arrangement ne constituent plus qu'un seul élément distinctif de la marque de fabrique morriconienne. C'est en ce sens que nous avons employé le terme de compositeur-arrangeur. Il en arrive à un point où il décline la moindre idée musicale en timbres et instruments qui vont la concrétiser, et très souvent, il pense même au musicien qui sera en charge d'interpréter le passage en question. Et lorsqu'un instrumentiste envisagé n'est pas disponible, il modifie tout simplement la partition. Au moment des orchestrations, Morricone raisonne d'abord et toujours en termes de timbres, en veillant à ce qu'ils forment un ensemble cohérent et agréable, y compris en introduisant des instruments atypiques, la guilofono, le celesta, le maranzano, etc., voire des sons concrets, fidèles en cela à la mouvance post-webernienne à laquelle il se revendiquait. Quand Christine Haas de Paris Match, c'était à l'année 2013, lui pose la question suivante, « Vous êtes le premier à avoir utilisé des instruments ethniques et des sonorités insolites comme le cri du coyote, le hurlement humain, le triangle ou la cloche. De quoi êtes-vous le plus fier ?» Le maestro donne une réponse éminemment morriconienne. « Je préfère l'oreille à tous les sons, aussi modestes soient-ils. J'aime garder l'esprit pionnier. » et explorer sans cesse de nouvelles directions. Mais mon but est d'appuyer une émotion, une tension, une action, avec une composition juste. L'effet pour l'effet ne m'intéresse pas. Afin de s'assurer que la bande-son atteigne le plus haut niveau de perfection possible, le maestro s'assurait lui-même du mixage en studio aux côtés du réalisateur, notamment sur sa période des grandes compositions qui ont fait l'objet d'un podcast précédent. Thank you. Le compositeur, arrangeur, perpétuellement soucieux du timbre, en arrive à créer, de façon parfaitement consciente, un son. En d'autres termes, un timbre sonore reconnaissable, puisque celui-ci a été pensé comme tel dès sa conception. Selon Jean-Michel Jarre, chez Morricone, il y a ces alliages, comme associer une guimbarde, une guitare électrique et des chœurs d'orchestre. Au bout de 10 secondes d'une musique, on sait que c'est la sienne, de quel film il s'agit, on voit les images. Petit à petit, la patte du compositeur se reconnaît. Et Morricone, de préciser, et progressivement, c'est devenu un style, quelque chose de tout à fait reconnaissable, qui me concerne au premier chef, et que l'on reconnaît non seulement à l'écoute, mais aussi en le voyant écrit. Je crois que je n'ai rien renouvelé, je n'ai renouvelé que mon langage. Petit à petit, selon mes exigences intérieures et celles de la technique du cinéma, précisait-il à la chaîne de télévision Arte en 2007. Est-il opportun de rappeler qu'au même moment où il évolue dans le cinéma en qualité de concepteur de bande son, Morricone se livre à la création de partitions classiques avec une méthode et une approche identiques à celles exposées précédemment. Fort de cette capacité à concrétiser n'importe quel son, pensé comme tel jusqu'à son timbre dès l'origine et adapté à la partition qu'il destine à l'écran, il s'immisce dans la fabrication du film aussi loin que le réalisateur et le producteur le lui permettent, en introduisant, autant que faire se peut, la musique qu'il aime au cœur du processus narratif. À l'image du dernier résistant John Williams, Ennio Morricone avait cette capacité à violer le consentement du réalisateur et des studios pour imprimer sa volonté sur la narration. Mieux, il fut appelé sur les plateaux, essentiellement par Léon, à s'investir dans la direction d'acteur à travers ses notes pour éclairer les émotions demandées aux vedettes, prouvant une fois de plus, non sans prendre de risque, la profonde imbrication entre sa musique et la narration cinématographique. Tel était le topo que l'on peut trouver dans le Figaro, dans un article signé Benjamin Cyr, le 6 juillet 2020 et intitulé « Ennio Morricone est immortel ». Avec Morricone, la bande-son devient un élément inextangible du film, en lieu et place d'une musique d'accompagnement qu'il renie pour l'avoir pratiquée très jeune lors de sessions de synchronisation, il introduit la musique au cœur de la narration comme l'un de ses constituants, au même titre que l'image, le dialogue, le jeu des acteurs, à un point où certaines partitions pour l'écran amplifient très sensiblement l'action, comme la succession de thèmes éminemment classiques et d'une beauté saisissante de Mission tout Mars, pour ne prendre que ce seul exemple. Car là est bien ce qui sépare le compositeur se contentant de surligner ce qui apparaît déjà à l'écran de la légende. Le thème, la mélodie, celle qui reste toute à la fois gravée dans la mémoire et associée à un film sans qu'aucune forme de dissociation ne soit possible. Et combien de mélodies du maestro entrent-elles dans cette définition? Comment dissocier de sa bande-son le clan des Siciliens? Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, le bon, la brute et le truand, cinéma paradiso, etc., etc., etc. La marque de fabrique morriconienne fait à ce point preuve de puissance et d'efficacité que la musique prend toute sa place, sans jamais écarter un seul autre élément constitutif du film. Les meilleurs résultats expressifs d'une musique ne sont pas ceux qui soulignent une action, mais ceux qui donnent de l'importance aux choses que le dialogue ne peut exprimer. Telle était la précision qu'il apporta à la télévision suisse romande en 1992, un reportage d'Anne Cueno. Sa musique porte et sublime ces choses-là, en les dotant d'un timbre unique, de notes aussi mémorables qu'impactantes, au point de faire de Morricone le seul compositeur identifié au cinéma, dont certains morceaux peuvent être sifflés ou chantonnés par n'importe qui, et pas seulement par les cinéphiles, comme le précisent les Arock dans un article signé Thierry Jousse en date du 6 juillet 2020 et intitulé « Comment Ennio Morricone a inventé le son d'une époque ». Enfin, la marque de fabrique du maestro recèle ses secrets de fabrication. Certains d'ailleurs ont été dévoilés, notamment dans le chapitre 11 de la biographie en référence « Ennio Morricone, le poison d'une œuvre » publié aux éditions Larivée, signé Philippe Grégoire. Comme il l'a été précisé dans ce fameux chapitre, Morricone crée des partitions modulaires, dont le principe permet de les faire évoluer à la fois pendant l'enregistrement et la phase de mixage. Elles offrent la possibilité de multiplier les combinaisons, les superpositions et les contrepoints. Elles se fondent sur un registre musical appelé multiplat par son créateur, qui rassemble des fragments mélodiques et harmoniques de 12 sons basés sur la théorie dodécaphonique de Schoenberg. Chacun peut être attribué librement à n'importe quel instrument. L'ensemble donne un résultat dissonant voulu par le compositeur et accepté par certains réalisateurs, comme Dario Argento, Vittorio De Sica ou encore Elio Petri. Il ouvre enfin la voie vers l'improvisation très chère à Morricone. Ceci étant, ce procédé, aussi ingénieux soit-il, ne sera utilisé qu'une vingtaine de fois par le maestro pour ses musiques de films, l'accueil que réservait le public à ses films n'étant pas toujours au rendez-vous. Alors, Morricone a cherché un système qui lui permette de proposer des musiques novatrices tout en s'adaptant à la compréhension des spectateurs de films. Cette volonté de correspondre à la culture du public a été remarquée par de nombreux cinéastes, dont deux qui l'ont déclaré, Brian De Palma et Oliver Stone. Ce système privilégie d'emblée trois sons faciles à retenir, alliés à la stagnation harmonique et à la répétition de cellules brèves qui permettent une meilleure mémorisation par l'auditeur. Il choisit enfin librement ses accords qui peuvent contenir jusqu'à 7 sons, eux-mêmes disposés en toute liberté. Ce procédé compositionnel débouche souvent sur une harmonie à la fois suspendue et variable en même temps. Chemin faisant, le maestro trouve sa voix dans une forme musicale qui lui convient tant elle répond aux demandes des cinéastes, trouve un écho très favorable au sein du public et correspond à la somme de ses exigences de créateur de son. Dans le Nouvel Observateur, Stéphane Lerouge, interviewé par Nicolas Chaler, le 7 juillet 2020, déclare « Ce qui fait sa différence, c'est que c'est un compositeur expérimentateur qui se retrouve dans un art appliqué, la musique pour l'image. tout va se jouer dans la négociation de Morricone entre les attentes, les besoins, les rêves des cinéastes pour leur film et ses propres ambitions. Sa volonté de ne pas trahir la musique en laquelle il croit. De cette voix médiane va naître cette musique miraculeuse, celle d'un compositeur d'avant-garde obligé de déradicaliser son écriture, mais qui reste, y compris dans les grands films de grande consommation, comme un expérimentateur qui ose des choses en termes d'harmonie, de contrepoint, d'orchestration, d'agencement de timbre. La musique du maestro résulte de toute une vie consacrée à trouver un équilibre parmi de nombreuses contraintes qui lui ménagèrent un espace de liberté et lui permirent de développer une identité musicale désormais reconnue au niveau planétaire. Ainsi s'achève le 9e et dernier volet consacré à Ennio Morricone sous forme de podcast et tiré de la toute première biographie consacrée au maestro et intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, sorti aux éditions Marie B et signé Philippe Grégoire. Les différents thèmes musicaux que vous avez pu entendre sont bien entendu tous signés Ennio Morricone. Le premier s'intitule Love Theme et provient du film Cinema Paradiso. Le deuxième s'intitule Metti una sera a cena du film du même nom. Le troisième La Calife du film du même nom. Et enfin Gabriel Szabó du film intitulé Mission. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le liker, à le commenter. Pour ce faire, vous pouvez également vous rendre sur le site morricone-biographie.fr, morricone-biographie.fr. Vous y retrouverez toutes les informations relatives à ce podcast, au livre de référence, la biographie de Morricone, mais également des playlists qui rassemblent les morceaux que nous citons au fur et à mesure de ces récits. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.